beaucoup chez les Tunisiens, ceux qui ont gardé le nom Khay. Ça descend de quelqu'un à qui on a changé le nom après une maladie. Vous savez que c'est un nom que les Tunisiens portent beaucoup, Khay. Ça vous est arrivé d'avoir des croix Khay, comme ça. C'est des croix. On n'a pas le droit de porter ces choses-là. Bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, quand c'est pas grave, c'est pas... Vous rendez pas compte de ce que vous faites. Des fois, j'ai vu des jeunes filles qui portent une mezouza sur leur poitrine. C'est complètement fou. C'est de la superstition qui devient de l'idolâtrie. En tout cas, si c'est votre cas, enlevez le claf. Tu es tunisienne, toi ? Quoi, tiens une mezouza, j'ai pas vu. Bon, bref, je reviens au sujet. De quoi je parlais d'ailleurs ? Tu m'as fait penser à la mezouza. De quoi je parlais justement ? Ah oui, vous avez des noms, ceux qui s'appellent Raphaël. Surtout quand Raphaël, c'est le deuxième nom. C'est des noms qu'on a donnés après le Chinois Yaché. Bon, je reviens en tout cas au problème. C'est que la catastrophe qu'il y a eu là, c'est que la valeur qui est représentée par la personne humaine, encore une fois, est déplacée sur la ville. De quoi il s'agissait dans ce sursis ? C'est que le frère n'a pas été capable d'être le vecteur de l'éducation en fraternité. Alors, Dieu a suscité un autre autrui, le fils, dans une société où on ne tient pas compte de la valeur du frère, peut-être qu'on va tenir compte de la valeur du fils, et par là, la fraternité à un niveau second sera récupérée. Il y a des hommes qui sont moraux avec leur fils, alors qu'avec leur frère, ils ne seraient pas. Est-ce que vous avez compris ça ? Voilà le sursis qui est donné. Eh bien, ça échoue, parce que la valeur que représente le fils, la progéniture, si j'ose dire, est donnée à la ville. Ça y est, c'est clair ? Alors, ce n'est que bien plus tard dans l'histoire qu'on va voir le tikkun de cela. Alors, prenez le chapitre 34. Mais vous avez dû remarquer, chaque fois que je reprends le même enseignement d'une autre manière, vous apprenez encore quelque chose de nouveau. Alors, ne croyez pas, ne tombez pas dans l'erreur de croire qu'un verset, on l'apprend une fois pour toute sa vie. Il faut l'étudier pour mieux le comprendre. C'est pour ça qu'on répète la paracha chaque année, la même. Elle n'est jamais la même. Alors, voilà ce qui arrive. Lorsque Jacob est revenu de son exil chez Laban, on s'aperçoit qu'il va directement à un endroit, ça c'est la fin du chapitre 33, un endroit qui s'appelle Shrem. Vous l'avez au verset 18 du chapitre 33. « Vayabo Yaakov Shalem, Ir Shrem, Asher Beretz Knaan. » Voilà quel est le problème qu'il faut avoir en tête. J'attends que vous ayez le verset sous les yeux. Et je vous répète encore une fois, je tiens à ce que chacun ait un livre. Et autant que possible, toujours le même. Donc, quand Jacob revient de chez Laban, quelle est la situation des engendrements dans la famille Jacob ? Eh bien, il a 11 garçons et une fille. Ensuite, Benjamin va naître, et il aura 12 garçons et une fille. Par conséquent, Jacob a un problème. Trouver quelqu'un avec qui marier sa fille. Est-ce que c'est clair ? Bon. Vous avez dû remarquer, dès le début du chapitre 34, de quoi il s'agit ? Une entrevue de mariage pour marier Dina. Et c'est un problème difficile. Parce que, avec qui marier les enfants de Jacob, qui ont l'identité Israël, avec qui les fils ont été mariés, on étudiera un autre jour. Le Midrash donne deux réponses, les deux sont importantes à étudier. Mais ça veut dire, où, en dehors de cette famille, trouver une identité humaine avec qui on peut contracter mariage pour la suite des engendrements, pour faire naître le Mashiach. Et c'est pas de n'importe qui va naître. C'est bloqué. Donc on était dans la famille des patriarches. Les patriarches avaient donné une consigne de prendre femme dans la famille des patriarches. jusqu'à ce que l'identité Israël puisse émerger. L'identité d'Israël, c'est Jacob. À partir du moment où Israël est Israël, tout le reste n'est plus Israël, y compris l'ancienne famille des patriarches. D'ailleurs, ce qui est arrivé de cette ancienne famille, vous le suivez dans le récit biblique, la branche de Lot, ça devient Ammon et Moab, et d'autre part, la branche du frère d'Abraham, Nahor, ça devient les Araméens. Okay. Et le Talmud, pour dire la femme étrangère interdite en mariage, a une expression très importante, vous apprendrez dans le Talmud, Mita Aramit, se marier avec une Araméenne. Okay. Pour dire se marier avec une Goya, on dit se marier avec une Araméenne. Si une femme Goya se convertit au judaïsme, ça devient une juive. C'est un autre problème. Okay. Mais tant qu'elle est en dehors d'Israël, elle est en dehors d'Israël. Donc, où trouver un mari pour Dina? Je laisse de côté les femmes des fils de Jacob, le problème des femmes des fils de Jacob, on l'étudiera un autre jour. Et où trouver un mari pour Dina? Alors voilà comment est le récit du chapitre 1. Vous suivez l'idée, okay? Ça veut dire, la Torah sait très bien ce qu'elle cherche, c'est pas une anecdote, okay? Directement, Jacob va dans un endroit où il espère trouver un mari pour Dina. C'est pour ça qu'il arrive à Shrem du pays de Canaan. Remarquez d'ailleurs l'expression. Verset 18 du chapitre précédent. Vayavo ir Shrem asher beret Canaan. Il arriva à la ville de Shrem qui est au pays de Canaan. Vous y êtes? Est-ce qu'il y en a une autre? Pourquoi j'ai besoin qui est au pays de Canaan? C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel Shrem. C'est celle qui est au pays de Canaan. Retenez ça. Alors voilà ce qui se passe. Vatetse Dina Batlea. Et Dina, fille de Léa, Asher Yalda Yaakov, que Léa avait enfanté à Jacob, Batetse, elle sortit, l'Irod du Notaharet, pour aller voir les filles du pays. Qu'est-ce que veut nous indiquer le verset, d'après notre sujet? Dina fait une visite d'amitié aux filles du pays, avec une question, avec qui on se marie ici? C'est une entrevue de mariage qui va se préparer. On continue. Vayarota Shrem ben Hamor, alors Shrem, fils de Hamor, Achivi, le Chivéen, Nessi Aret, prince du pays, la vit. Vayikarota, il l'a prise. Vayishkavota, il coucha avec elle. Vayanea, il l'a violenta. C'est un verset très concis, très direct. Et il y avait le fils du prince dans l'entrevue. Il tombe amoureux d'elle, il l'a prise de force. On suit? Vous suivez? Après, on verra ce qui arrive de cela. Et alors, je reviens un peu en arrière. Shrem ben Hamor. Et on dit tout de suite que ce Hamor, c'est le fils du prince du pays. Donc, on est dans un endroit où la ville a rendu le nom à l'homme. C'est clair? La ville s'appelle Shrem. Et voilà que le fils du prince s'appelle Shrem. Donc, on n'est pas n'importe où. On est dans une cité où on a déjà la rédemption de la faute de Caïn avec Hanor. La ville a rendu le nom à l'homme. C'est clair? Donc, c'est pas n'importe où que Jacob va chercher un gendre. Ça y est, c'est compris? C'est dans un endroit où la ville va rendre les droits à l'homme. Ça s'appelle, en français, les droits de l'homme. Oui, dans notre temps, tout se passe comme si Shrem, c'était un Français. C'est en France qu'on a parlé des droits de l'homme et du citoyen. Alors vous avez compris pourquoi tous les Juifs, quels qu'ils soient, se sont pris pour des Français. Vous avez remarqué? On s'est dit, si ça réussit quelque part les droits de l'homme, c'est en France. Et en fait, historiquement, c'est en France que c'est apparu. Il y a eu des choses analogues ailleurs. Il y a eu les chartes en Angleterre, en Amérique, dans des principautés, ça et là. Mais ce n'est qu'après la Révolution française que vraiment, cette notion que la cité rend les droits à l'homme apparaît dans l'histoire humaine. C'était en France. Vous comprenez? Pourquoi la Révolution française a eu une telle force de séduction sur les Juifs, au point que les Juifs se sont pris pour des Français? Pire que ça, il y avait une expression chez les premiers Israélites français du temps de la Révolution, que Dieu est né en France, que le Messie est arrivé en France. Le prince Arthur, vous avez entendu parler du prince Arthur? Nous, on a cherché le prince Arthur partout. Finalement, on a cru l'avoir trouvé en France. Même en France, c'était faux, comme mais ça vous explique ce qui se passe dans ce récit. Jacob va directement à l'endroit où on peut espérer qu'un mariage soit vraiment un mariage. c'est-à-dire l'endroit où les droits de l'homme sont restitués. Et alors on va voir que Jacob va favoriser ce mariage malgré la violence de la barbarie de ce Shrem. C'est quand même un barbare. Les frères de Dina vont intervenir, c'est quand même un barbare. Mais Jacob a une sorte de complaisance. On n'en a pas d'autre sous la main. C'est le prince Arthur. Vous avez compris? Vous suivez? Top. Et verset 3. Je continue, après je reviendrai sur tel ou tel détail. Verset 3. Va-t-il Baknafcho et Dina? Et sa personne s'est attachée à Dina. Ça veut dire, bon, il s'est conduit comme un barbare à la française. Et puis... et après, il s'est mis à l'aimer. Vaïeha vetanara, et il aima la jeune fille. Vaïdaver levanara, et elle aussi, ça lui a dit quelque chose. Il a parlé au cœur de la jeune fille. Vous voyez ce qui se passe sur le campus lorsque Dina rencontre François. Tout à fait ça. Voilà la scène. Vaïeha melhamo, beno. Verset 4. Eshrem dit à Hamor son père, Kahli et Ayalda Zotleisha, prends-moi cet enfant pour femme. Verset 5. Suivez son livre. Yaakov, Shamar, Kitime, Dina, Vito. Et Jacob entendit que sa fille Dina avait été rendue impure. Ubana, Vayu et Mikneu, Basade. Et ses fils étaient avec le troupeau dans le champ. Vecherish, Yaakov, Adboam. Et Jacob s'est tu jusqu'à leur arrivée. Vous voyez cette notion de Heresh. Qu'est-ce que ça veut dire Heresh? Très bien. Vecherish, ça veut dire il s'est tu. On a parlé de Harish. C'est aujourd'hui? Tout à l'heure? Adboam, jusqu'à ce qu'ils aient arrivé. Jusqu'à ce qu'ils sont revenus. Vayetse Hamor Abishrem, Eliakov, et Hamor, le père de Shrem, alla vers Jacob, les Daberito, pour parler avec lui. Ubnei Yaakov baou minasade, et les fils de Jacob vinrent du champ, Keshomram, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle que Dina avait été violentée, Vait Hatsebu, ils furent attristés, Anashim, ses hommes, Vait Harla et Meod, ils furent très en colère, Kinevala Asabe Israël, car une Nevala, c'est une. Littéralement, Nevala, c'est une charogne. Mais ça veut dire quelque chose de dégradé. Quelque chose, une action dégradante. Comment on dit en français, ça m'échappe. En français vulgaire, on dit une saloperie, mais comment on dit en français propre. J'ai compris l'idée, Ken. Flétrissure a été faite en Israël. L'Ishkavet Bat Yaakov, Befeno Yarase. De prendre de force la fille de Jacob, et ainsi, ça se fait pas. Vaïdaver Hamor Itam les morts, et Hamor parla avec eux en disant, Shrem béni, Shrem mon fils, Hashka nafsho vevitechem, ça est tombé amoureux de votre fille, Tenuna otal oleisha, donnez-la lui pour femme, Vitratenu otanu, et vous vous marierez avec nous, Benotechem titnou la nous, vos filles, vous nous les donnerez, et nos filles, vous les prendrez. L'assimilation totale. Voilà le contrat que Shrem fait avec Jacob. Eh bien, ça peut marcher. Shrem va épouser Dina, puisqu'il l'aime. Et d'ailleurs, on a appris qu'elle avait un faible pour lui, okay. Mais à une condition. Mariage mixte. D'ailleurs, l'assimilation, c'est ça. Vous voyez ce que ce récit nous dévoile. Comment ça se passe? Lorsque les Juifs arrivent dans un pays où ils croient que l'homme, c'est un homme, la femme, c'est une femme. Vous avez compris ce que je veux dire. Effectivement, au moment de la Révolution française, lorsqu'il y a eu le Sanhédrin de Napoléon, la clause que Napoléon avait mise dans les discussions avec les rabbins, c'est que les Juifs et les Français se marient entre eux. Je ne sais pas si c'est clair. Et effectivement, les Juifs ont été pris au piège. Ils ne peuvent pas se marier avec des non-Juifs. Alors les Français leur ont dit, alors vous n'êtes pas des vrais citoyens français. Mais c'est les Français qui ont raison. Ce n'est pas un appel au mariage mixte. C'est un appel à rentrer chez soi et à se marier avec la cousine et pas la voisine. Vous avez compris ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair? Donc, mais regardez jusqu'où ça va. C'est tout, ça fait le contrat du Sanhédrin de Napoléon, qu'on lit là. « Veit à noter chez vous, et vous installerez chez nous, varetti et l'ifnechem, toute la terre vous est ouverte, chez vous sera loi, installez-vous, faites du commerce, veit chazouba, et, comment on dit en français, prenez-y racine, mais enfin, comment on dit en français, agrippez-vous à elle, installez-vous à elle, devenez citoyens de notre pays. » Réomèchrem et Rabia, Echrem dit à son père, donc à Jacob, Vélachéa et à ses frères, Emsachem et Enechem, que je trouve grâce à vos yeux, Vacher Tomru et Laïeten, et tout ce que vous direz, je le ferai, je le donnerai. Harbou Alaï Meod Maharumatan, Moharumatan, vous pouvez multiplier et la dot de contrat de mariage et les cadeaux, Etenaï, je donnerai, Kacher Tomru et Laï, comme vous me direz, Utnouli et Tanara Leïcha, et donnez-moi cette jeune fille comme femme. Et les enfants de Jacob répondirent à Shrem et à Hamor son père avec ruse, et ils dirent ceci, Asher Timé Dina Rotam, parce qu'il avait rendu impur Dina, leur sœur, il leur dit, nous ne pouvons pas faire cette chose-là, donner notre sœur à quelqu'un d'incirconcis. C'est une honte pour nous. Arbezot neot lachem, mais avec cela, cela pourra être fait. Imti you comme nous, si vous êtes comme nous, les imon lachem kol zachar, de circoncire les mâles. Venatano et notenu lachem, alors nous vous donnerons nos filles, et vos filles, nous les prenons pour nous. Veyachanu itechem, nous nous installerons avec vous. Veyitem le amechad, veyinu le amechad, et nous deviendrons un même peuple. Vous voyez ce qui se passe ici. Jacob sait très bien ce qui s'est passé avec Dina. Nous allons voir que les frères ne sont pas d'accord. Jacob sait très bien ce qui s'est passé avec Dina, mais il a tendance à accepter ce contrat. On va faire un même peuple avec les goïms de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que lorsque les frères ont réagi, le verset a dit « Nevala na'asa be'Israël ». Une flétrissure a été faite en Israël. Alors ça, vous apprendrez plus tard. Il y a deux niveaux de l'identité Israël. Le niveau Jacob, c'est le niveau de l'exil. Le niveau Israël, c'est le niveau du retour. Alors ça, c'est une stratégie des Juifs de l'exil. C'est une stratégie de survie. On va faire semblant d'être le même peuple que l'endroit où on habite. J'ai dit bien, on va faire semblant. Et ça ne trompe pas les goïms. Les goïms sont très patients. À un certain moment, ils s'aperçoivent qu'on les a roulés, et alors ils se vengent. Vous avez compris ce qui se passe, hein? Vous voyez, c'est ce dialogue entre un juif et un français. Je vous ai raconté ça une fois, quand je l'avais appris d'un juif polonais d'Allemagne. Je sais pas si c'est à vous que j'ai parlé de ça. Mais imaginez un juif qui dit à un français, moi je suis français comme toi, plus que toi. Et le français qui dit, alors si toi tu es français, moi qu'est-ce que je suis? Et le juif il lui répond, toi tu es goy. Et quand le français s'aperçoit qu'il n'est que goy, mais que le français c'est le juif, il fonde le Front National. Vous avez compris comment ça marche? Et ça fait de la peine à tout le monde, Le Pen. Méfiez-vous, c'est ça qui se passe. Et la Torah le sait, elle nous le raconte. Et puis on tombe dans le piège à pied joint. Chaque fois, ça n'a jamais raté. Qu'est-ce qu'on cherche? Le prince Arthur. Mais voilà ce qui est à la clé. Okay. C'est clair? On continue. Imotishmeru elenu leimol velakachnu elvitenu velakachnu. Et voilà ce que disent les frères de Gina à Shrem et à son père. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous demande de vous circoncire, on prendra notre fille et on s'en va. On s'en va où? En Eretz Israël. Oui, on s'en aller. T'as c'est clair? On continue. Veitez-vous d'Ivrahim ben Hamor. Et ces paroles plurent aux yeux de Hamor, ou Van Eshrem, aux yeux de Shrem, ben Hamor, fils de Hamor. C'est un Hamor, celui-là. Bon, ça, j'ai pas utilisé, mais on verra pourquoi il s'appelle Hamor. Quelqu'un a une idée pour qu'il s'appelle Hamor? Très bien. C'est les matérialistes, enfin, les hommes de la matière. Velo echar anahar la asot adabar. Et donc, le jeune homme n'a pas tardé de faire cela, qui rafet bebat Yaakov, car il désirait la fille de Jacob. Velo nirbad, il était un homme réputé, Mikol betabi, de toute la maison de son père. Vayavo hamo vushrem beno el shahar iram. Et hamo et shrem, son fils, sont allés au tribunal de leur ville. Les tribunaux étaient à la porte des villes. Aïdaverou, l'ancien Hiram les morts, ils parlèrent aux notables de leur ville en disant Hanashim, Aelesh, Lemim, Emitanou, ces hommes sont parfaits avec nous, vivez chez vous, Baharet, ils s'installeront dans le pays, Visahaurta, ils feront le commerce, Baharet, Iné, la Havat, Yadayim, Nifneem, et voici, notre terre est grande ouverte devant eux, et Benotam, Nikarlanou, nous prendrons nos filles, les Nashim, pour femmes, et Benotam, nous Nitenaem, et nos filles, nous les donnerons à eux. Arbezot yotulanu, mais c'est par cela qu'ils seront amis avec nous, et ils consentiront à nous, à Anashim, ces hommes, la Chevetitanu, de s'installer avec nous, liot le amecha, d'être un même peuple, beimolanu goldacha, si nous nous circoncisons tout mal, kacherem yuolim, comme eux sont circoncis. J'ai lu la suite, je ne vais pas prendre trop de temps à vous le lire en détail, mais je vous dis l'essentiel. Voilà ce qui est arrivé. Ils les ont circoncis. Le troisième jour, comme ils étaient dans la fièvre après l'opération de la circoncision, ils ont tous tué. C'était Shimon et Lévi, les frères de Dina, ont tué tous les hommes de Shrem pour venger ce qui était arrivé à leur fille. Vous voyez, la chute de ce récit a l'air énorme. Okay, c'est une ruse. On leur a demandé de se circoncire. Ils ont accepté. Et comme ils étaient malades de la circoncision, on en a profité pour les tuer. Vous avez compris qu'on ne comprend pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qui peut expliquer ce qui se passe? Dans tout le cas, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important. Jacob, comme Jacob serait prêt. Vous savez, les Israélites français se sont assimilés comme ça. Le nombre de mariages mixtes qu'il y a chez les Juifs du temps de la Révolution française, c'est inouï. C'est des familles juives qui sont préservées pendant des siècles et des millénaires. Et puis subitement, ils s'installent en France et il se passe ça, le mariage mixte. Et puis, et encore, chez les Ashkenazim, cette assimilation a été plus lente que chez les Sfaradim. Quand les Sfaradim sont arrivés en France, ils parlaient déjà le français, donc ils n'avaient même pas la barrière de la langue, ce que les Ashkenazim avaient pour le Yiddish. Et d'ailleurs, la plupart des Sfaradim sont persuadés que c'est eux qui ont le vrai accent français et que les Parisiens parlent pointu. Je ne sais pas si vous savez ça, Ken. Tu as vu ma fille l'accent qu'il a, hein? Et c'est un piège. Les Nord-Africains se sont pris pour des Français parce qu'ils parlaient le patouette, hein, en Afrique du Nord. Mais quoi qu'il en soit, le nombre relatif des mariages mixtes chez les Sfaradim de France aujourd'hui en quelques générations est foudroyant. Je ne sais pas si je vous en ai un chiffre, ça va vous faire peur. Mais je n'ai pas besoin de vous donner le chiffre. Dans toutes vos familles, c'est déjà les mariages à l'église. C'est vrai ou pas? Alors ça, c'est la sanction de l'exil. Donc c'est ça qui se passe. Alors il y a une tendance de Jacob, comme Jacob, d'accepter les conditions de l'exil, mais ça mène là. Alors que les frères de Dina, qui s'appellent Israël, eux réagissent. On fait passer en Israël. Ça y est, c'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Je vais vous donner un enseignement, vous y réfléchirez, on le reprendra par la suite. C'est que on apprend quelque chose de très important pour ces habitants de Shrem, c'est pas n'importe qui. C'est les habitants d'un endroit où la ville a rendu son nom à l'homme. Et cependant, ils sont quand même barbares. Ça vous aide à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ont droit à Olam Haba, mais pas à Olam Hazé. Dans Olam Hazé, c'est des barbares. Mais déjà, ils méritent Olam Haba. Alors, pour qu'ils puissent avoir leur Olam Haba, on les circoncit et on les envoie là-bas. Et c'est clair. C'est exactement ça. Ça veut dire que nous avons affaire à la rencontre d'un type humain dont l'âme est déjà en or sur le chemin d'eux, mais qui, sur terre, au niveau du corps, c'est des barbares. Alors voilà ce qui se passe. Réfléchissez bien à ça, on le reprendra, je vous donnerai beaucoup d'autres enseignements là-dessus pour faire comprendre la naïveté des Juifs qui se mesurent à un adversaire comme si c'était déjà un ange, alors que sur terre, c'est un barbare. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Enfin, réfléchissez par vous-même et on reprendra voilà tout ça. Quelle heure il n'est pas encore? C'est l'heure. Donc, Ken? Oui, ça, tu as dû lire Rashi, alors tu as la réponse dans Rashi. Les autres n'ont pas lu Rashi encore. Et Tu as l'habitude de faire des questions comme ça, toi. Écoutez, moi, je sais lire. Okay. Réfléchis un peu, reste dans le cours. Alors, je reviens au sujet. Mais par contre, je vais répondre à la question de tout à l'heure. Comment s'appelle cette ville ? Schrem. Et c'est donc Schrem qui a rendu le nom au fils de Hamor, qui va s'appeler Schrem. Okay. Alors, vous rappelez ce qui est arrivé au temps de Hamor ? Redis-moi le verset, ta question de tout à l'heure. Vaïkra et Shemaïr. Voilà. Regarde, tu sais lire avec les accents ? Et Taramim, alors regarde bien l'accent qu'il y a sous Keshem. Tu as le verset ? C'est le verset 17 du chapitre 4, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a comme accent sous le mot Keshem ? Tarha, très bien. C'est un accent quoi ? Conjonctif ou disjonctif ? Qui sépare, nakhon ? Alors regardez ce que ça veut dire. Et il nomma le nom de la ville Keshem, Beno Hanor, son fils c'est Hanor. Tu suis ? Donc, le nom de la ville au temps de Caïn a été appelé Keshem. C'est les mêmes lettres que Shrem. Tu remarques ? Voilà. Alors on retrouve Shrem dans le pays de Canaan, et c'est cette ville-là qui a rendu le nom à son fils. Voilà pourquoi c'est Keshem. Bien, alors, pour la prochaine fois, on va faire comme si on avait lu la suite, une minute, c'est pas fini, et qu'on sait ce qui s'est passé au déluge, et après le déluge, et on va commencer avec l'histoire de Noah. Alors vous allez prendre... les premiers, c'est la paracha de Noah. C'est le chapitre 6, je crois. Oui, à la fin du chapitre 6. Alors, chapitre 6, à partir du verset 9. Vous allez lire le chapitre 6 depuis le début du chapitre 6, c'est la fin de la paracha de Bereshit, et les premiers versets du chapitre 6, pour la prochaine fois. Hein. La question que je vais poser, essayer d'y réfléchir, c'est que le dernier verset de la paracha Bereshit, Ben Noach Matzachen Ben Hashem, on dit que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le premier verset de notre paracha de Noach dit que Noach était tzaddik. Vous allez voir bien cela qu'il y a une contradiction apparente. Est-ce qu'il a trouvé grâce ou est-ce qu'il était juste ? Étudiez bien ce contexte-là. Vous pouvez voir d'ailleurs ce que dit Rashi. Et puis, on commencera à étudier cela la semaine prochaine, c'est-à-dire l'identité de l'homme qui recommence l'histoire de l'humanité après le déluge. Vous y êtes ? Alors ça, c'est pour mardi prochain. Tiens, regarde, est-ce que tu peux apporter ça à mon bureau ?